Philippiens chapitre 3 au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. J'aime bien cette phrase. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Père, merci pour ta parole. Seigneur, agis en nous ce soir. Seigneur, donne-nous un grand désir pour l'excellence en Jésus-Christ. Amen. Une de mes personnalités préférées dans toute l'histoire de l'Église, c'est un homme qui s'appelle D.L. Moody. Moody, c'est le nom de famille. Moody, c'était un grand évangéliste du 19e siècle. Là, avant la télévision, avant la radio, on a dit que dans les réunions de M. Moody, il y avait peut-être 1 million de personnes qui se sont approchées pour demander Jésus-Christ de venir dans son cœur. Dans l'Angleterre et aux États-Unis, il y avait des centaines de milliers de gens qui ont été touchés, des millions peut-être, qui ont été touchés par le ministère de ce frère. Mais avant qu'il soit pasteur, là, il avait commencé une école de dimanche à Chicago. Et là, il allait dans les quartiers difficiles, les quartiers chauds, et il a invité les enfants de venir dans l'école de dimanche. Il avait une école de dimanche qui avait 1000 enfants qui venaient assez souvent. Alors, il était content de ça, parce que lui, c'était vraiment le promoteur. C'était, bon, il aimait le Seigneur, mais ce qu'il aimait beaucoup, c'était de voir beaucoup de gens qui viennent, beaucoup d'enfants qui viennent. Là, il était content. Il a dit, j'accomplis quelque chose, parce qu'il y a des jeunes, des enfants qui viennent. Alors, un jour, il y avait quelqu'un qui est venu dans son bureau. Lui, il était représentant aussi. Son but dans la vie, c'était de gagner 100 000 $ chaque année. Alors, dans le 19e siècle, 100 000 $, c'était une somme énorme. Et c'était son but dans la vie. Mais à côté de cela, il faisait l'école de dimanche pour le Seigneur, parce qu'il aimait le Seigneur. Et puis, un jour, un des moniteurs de l'école de dimanche venait dans son bureau. Et il était touché, cet homme. Il était ému. Il dit, écoute, Monsieur Moody, il va falloir que je vous quitte parce que moi, je dois revenir chez moi à New York parce qu'ici à Chicago, le temps, il fait tellement mauvais en hiver et près des grands lacs, là, ça, c'est trop humide et le médecin m'a dit, maintenant, je crache de sang et il faut que je revienne chez moi parce que le climat, c'est mieux et si je, bon, de toute façon, probablement, je vais mourir. Mais il voyait, Monsieur Moody, que cet homme était troublé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez peur de la mort? Et le moniteur de l'école de dimanche, il dit, non, c'est pas ça. C'est que ma classe, enfin, il était moniteur d'une classe de filles, des préados. Préados jusqu'à à peu près 16 ans. C'était des filles avec rien dans la tête, qui, dans la classe, M. Moody, il avait déjà enseigné cette classe, et elles se promenaient, n'écoutaient pas, et il les a presque mis à la porte tellement elles étaient agaçantes. Mais cet homme-là, il a dit, tu sais, j'ai enseigné dans cette classe et il n'y a pas une seule de ces filles qui ont reçu Christ comme sauveur. Et Moody, il était choqué parce qu'il n'avait même pas pensé à ses enfants comme ça, de recevoir le Seigneur comme les âmes. Pour lui, il pensait au nombre. Et il dit, bon, écoute, ce qu'on peut faire, on peut aller ensemble pour aller voir les filles là. Alors, ils sont allés ensemble, ils ont vu la première là, et au lieu d'être stupide comme elle était normalement, chez elle, elle était très sérieuse, elle n'était pas avec les autres. Et quand ils ont présenté l'évangile à cette fille, elle a dit, oui, je veux que Jésus soit dans mon cœur. Et ils ont prié qu'elle soit sauvée. Et puis une autre, et puis une autre. Et puis, le moniteur, il ne pouvait plus parce que là, disons, il était faible, il revenait à la maison. Mais il a continué, 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 jusqu'à ce qu'à la fin de 2 semaines, il venait parce qu'il devait partir. Il disait à M. Moody, écoute, M. Moody, vous savez quoi? J'ai visité chacune des filles de ma classe et chacune de ces filles, elles ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Alors il dit, moi je peux partir. Mais M. Moody dit, non, 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 papa, pas encore. On va avoir une petite fête avant que tu partes. La nuit avant qu'il parte, toutes les filles sont venues ensemble avec le moniteur, avec M. Moody. Là, il a parlé un peu, ils ont chanté. Et puis, ils se sont mis à genoux pour prier. Alors, le moniteur, il a prié. M. Moody, il a prié. Et puis, il commençait de se lever parce qu'il n'attendait pas. Et mais tout d'un coup, une fille là, une fille des quartiers qui ne savait pas trop prier. Mais il commençait de prier avec des mots, de ses propres mots, de son cœur. Et elle remerciait le Seigneur pour ce qu'il a fait dans son cœur. Et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Mais ce maudit, il était secoué jusqu'au fond de lui-même. Le jour suivant, il n'avait pas pris rendez-vous ou rien de tout. Mais chacune de ses filles, sans parler aux autres, évidemment, sans parler à M. Moody, ils sont allés à la gare pour dire au revoir à ce moniteur de l'école de dimanche. Et puis, en voyant l'homme, il était tout derrière le dernier wagon là, et on a vu, les filles les ont vues, là, le moniteur, avec le doigt indiquant le ciel, en disant, je vais vous voir là-haut. Mais ce maudit, il a dit, moi, je n'étais jamais le même. Tous ces buts, tous ces dessins, toute cette idée qu'il avait de gagner beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il aimait bien la compétition, ça s'est évanoui parce que devant l'éternité, devant ces âmes qui étaient tellement précieuses, pour lui, ça semblait comme rien de tout. Et ce jour-là, il a abandonné ses plans. Il a abandonné ses desseins pour travailler à plein temps pour le Seigneur. Il avait déjà un grand salaire. L'année avant, il n'a pas gagné le dixième de ce qu'il avait gagné l'année avant. Il dormait des fois sur une canapé dans une église, là, quelque part, une partie d'une église. Mais il était content de faire la volonté de Dieu. Et cet homme, de ce point-là, beaucoup de choses dans sa vie, mais il est devenu un des grands, plus grands évangélistes que le monde ait jamais connu. Jusqu'au point, un jour, quand il était toujours jeune prédicateur, il avait un ami en Angleterre, là, un boucher qui prêchait. Et ce boucher, il lui a dit un jour, le monde n'a jamais vu ce qu'un homme, tout à fait consacré, totalement consacré au Seigneur, est capable de faire. Le monde n'a pas vu ce qu'un seul homme, tout à fait consacré à Dieu, ce qu'il peut faire. Et normalement, nous disons, oh oui, c'est vrai, nous sommes des êtres humains. Vous savez ce que Moody a dit? Il a dit, mais il n'a pas dit un homme de beaucoup de talent. Il n'a pas dit un homme grand, il a dit un homme. Il a dit, par le Saint-Esprit en moi, je serai cet homme. Je serai cet homme. Et il est devenu excellent pour le Seigneur. Tout comme il voulait être excellent dans le monde, il est devenu excellent pour Jésus-Christ. J'ai regardé quelque chose de l'autre jour. C'était comme ils ont fait ce film qui a eu tant de recettes au cinéma. Mais j'ai vu un petit DVD là, le Seigneur des Anneaux là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour fabriquer ce film? Moi, j'étais frappé. J'étais frappé. Parce que ces gens de ce monde, ils se sont tout donné. 2 ans de leur vie, certains, je crois que c'était 2 ans. Ceux qui ont financé ça, des millions, des millions, des millions de dollars pour cela. Même les détails de tous ces costumes, tout ça a été fabuleux. Parce que tout le monde qui travaillait presque, ils voulaient être excellents. Et moi, je me suis dit, tiens, les gens de ce monde, ils se donnent tant de peine pour être excellents dans ce monde. Et ça dure qu'un seul instant. Pourquoi pas nous, moniteurs de l'école de dimanche? Pourquoi pas excellence? Pourquoi tu ne fais pas ta classe d'une manière excellente? Tu n'es pas seulement un babysitter. Tu es quelqu'un qui communique la parole de Dieu. Parole. Pourquoi pas? Tu dis, oh là là, ces petits, ils me cassent les pieds, oh là là, toute la journée, c'est vrai, ils le font, n'est-ce pas? On dit, oh, ça sera bien. La femme, la première fois, elle tombe enceinte. Oh, c'est moi, merveilleux, merveilleux. Oh, je vais avoir un bébé. Oh, c'est bien. Et puis, 2 semaines après la naissance, oh, c'est ton tour. Ben, il pleut de nouveau. C'est toi qui dois. Non, 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 c'est toi. C'est pas qu'est-ce qu'il y a. Mais mes amis, oh là là, maintenant que je suis grand-père des 5 plus beaux petits-enfants du monde, que je me dis, Seigneur, oh là là, avec mes enfants, certaines choses, j'aurais bien aimé faire ça. J'aurais bien, là, si les enfants étaient de nouveau là, j'aurais mieux fait ça. J'aurais pris plus de temps. Mes amis, je crois que Dieu ne nous appelle pas d'être médiocres. Il nous appelle d'être excellents en tout ce que nous faisons. Amen. Si le monde peut être inspiré et excellent en ce qu'ils font, pourquoi pas nous, beaucoup plus qui faisons des choses pour l'éternité, pour Jésus-Christ? Est-ce que vous avez une vision pour l'excellence? Paul qui avait tout, il a dit, pour moi, toutes ces choses-là, sont des ordures. Je n'ai plus besoin. Mais parce qu'il a attrapé une vision de Jésus-Christ. Il a dit, c'est excellent. Connaître le Seigneur, c'est excellent. J'aime bien ce mot, excellent. Il a dit, moi j'ai tout donné. Toutes ces choses, ce sont des balayures par rapport à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment être excellent pour le Seigneur? Comment être hors d'ordinaire? Bon, il y a plusieurs choses, mais j'aimerais bien en parler de quelques-uns ce soir. D'abord, je crois qu'il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Paul, il a dit au verset 14 de notre texte, Philippiens chapitre 3, « Je cours vers le but. » Je cours vers le but. Quand j'étais au Luxembourg, là, il y avait un cours de vélo dans notre village, course de vélo. Et ben, je crois que c'était régional, enfin. Et là, juste devant ma maison, dans le temps, il y avait un virage très, très fort. Et le virage qui allait vers la gauche, ça descendait vers la Belgique. Et puis, celui qui tournait à droite, ça montait vers Luxembourg-Ville. Alors, il fallait savoir où tu étais. C'était assez dangereux, le virage. Mais là, ce beau jour, je ne sais pas, mais la voiture qui dirigeait, qui était là devant les coureurs de vélo, il s'est éloigné un peu trop. Alors, les deux premiers, je les ai regardés devant ma maison, ils venaient à toute vitesse. Les autres étaient loin derrière. Ils venaient. Et puis, au lieu de tourner à droite vers Luxembourg-Ville, comme il fallait, ils ont tourné à gauche. Ils allaient vite. Wow, ils allaient vite. Et puis, le peloton est passé. Ils sont montés vers Luxembourg-Ville. Et puis, quelques minutes plus tard, je vois deux bonhommes qui reviennent dans ce sens-là. On voyait les dents. Vous savez, quand il y a un coureur qui est vraiment heureux, vous pouvez compter les insectes sur ses dents, parce qu'il fait comme ça. Alors, ils avaient beaucoup d'insectes sur les dents. Ils allaient vite. Ils voulaient rattraper le peloton. Alors, il y a des gens qui croient que l'activité, c'est tout ce qui compte. Non! Il faut un but. Il faut une direction dans la vie. Il faut une vision d'où vous allez. Parce qu'il y a tant de gens. Mes amis, si moi, je n'avais pas un sens d'aller quelque part, je serais misérable. Ça, c'est pourquoi il est important que les leaders se tiennent devant Dieu pour avoir une vision de la direction de l'Église. Ça, c'est pour cela. Comme j'ai dit, ce moniteur, il avait une vision, une direction pour les filles dans sa classe. Il voulait qu'elles soient sauvées, qu'elles deviennent femmes de Dieu, servantes de Dieu. C'est pour cela que nous, les parents, nous nous tenons devant le Seigneur pour nos enfants, que nous vivons pour Jésus devant les enfants dans une manière excellente. Parce que nous avons une vision pour nos enfants. Et nous avons une vision pour nos enfants. Vous savez, il y a des gens, on a toutes sortes. Si, par exemple, il y a des gens, ils ont une vision, mais là-bas, derrière, oh, vous savez, et vous aurez dû connaître l'Église il y a 25 ans de cela. Oh, je me souviens quand j'étais tout un prédicateur, j'ai fait une mission dans une église, et puis à la fin de la mission, c'était pas éclatante tellement la mission, et il y avait une bonne sœur de l'église, elle n'était pas catholique, mais une bonne sœur de l'église qui était là, qui nous regardait en train de charger notre voiture. Et c'était au début des années 70, je crois, que par là. Et elle m'a dit, ah, vous savez, monsieur, la dernière bonne mission dans laquelle j'étais, c'était il y a 35 ans de cela. Je dis, merci, je suis content que vous avez bien profité de cette mission cette semaine. Je n'ai pas dit ça, j'ai pensé cela. Elle ne m'a pas trop encouragé. Mais après, j'ai réfléchi. La dernière bonne mission dans laquelle elle était, c'était 35 ans auparavant. Wow! Wow! Je suis content que je ne sois pas le mari de cette femme-là. Parce que j'imagine qu'elle est assez sèche, spirituellement et autrement aussi, n'est-ce pas? Il y a des gens qui regardent toujours pas derrière. Si vous regardez votre voiture, que vous conduisez votre voiture comme ça, vous allez faire quoi? Hein? Oh, mon frère. Oh, c'était l'âge de... Ou bien, il y a des autres. Vous savez ce qu'il m'a fait, celui-là, il y a 10 ans de cela? Il y a des gens qui sont capables de vous raconter en détail tout le mal que les autres leur ont fait il y a 20 ans de cela. C'est si lent, voyons, mais je ne sais pas. Dis Amen. Amen. Dis oh, 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 oh. Dis quelque chose pour que vous puissiez. Mais c'est vrai. Parce que la vision, c'est là. Mes amis, aussi longtemps que la vision, c'est là. Excusez-moi, mais vous allez vous casser la binette. C'est Guy Bergamini qui m'enseigne le français. Alors, c'est de lui que... Il a dit ça dans une prédication, alors j'ai dit, ça doit être bien. Alors, on ne peut pas regarder par là. On peut regarder par derrière pour l'instruction. On peut dire, oui, je suis passé par là une fois, il y a 5 ans, et j'ai fait une erreur. Cette fois-ci, je ne vais plus refaire la même erreur. C'est bien de regarder le passé de ce côté-là. On peut regarder le passé pour l'inspiration. Ici en France, moi, je m'inspire d'entendre les histoires de Douglas Scott. Et de réveiller le Pentecôte en France. Et comme j'ai dit, M. Moody, au début, c'est bien de ce côté-là de s'inspirer de ce que Dieu a fait par le passé. Mes amis, ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais vous pouvez aussi regarder autour de vous, dans le présent. Regardez Dieu et ses bénédictions. Il y a tant de personnes qui sont, ils sont des troupes grognons. Comme je vous ai dit la dernière fois, ce sont des gens qui sont baptisés dans le jus de citron. Assez misérable, n'est-ce pas? Il y avait une dame qui venait dans notre assemblée au Luxembourg de temps en temps. C'était la femme la plus négative. C'était la trompette grognonne. Oh là là, vous lui dites, comment ça va? Oh, ça ne va pas. Comment ça va? Oh, je ne disais plus ça, comment ça va, parce que je savais déjà. C'est un ami dans l'église, il m'a dit qu'il a vu un homme qui a rencontré cette femme sur le trottoir. Et cet homme a dit, bonjour, ça ne va pas? Petit raccourci, parce que ça ne va pas chez elle, jamais. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont misérables parce qu'ils ont oublié, écoute-moi, ils ont oublié d'être reconnaissants. Moi, j'ai peur. Et je dis honnêtement, pas une peur respectueuse, si vous voulez, une crainte respectueuse devant le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé de mon attitude, de mon manque de remerciement, que des fois je me plaigne. Des fois, je crois que c'est Deutéronome chapitre 28, il parle d'une malédiction à ceux qui n'obéissent pas à la parole, à la parole de Dieu. Mais il continue, il a dit parce que, je cite ça librement, mais il a dit parce qu'au milieu de l'abondance, vous n'avez pas remercié le Seigneur. C'est une malédiction. La malédiction de Dieu est sur les gens. Bien sûr, on dit la désobéissance, on dit ça tout de suite. Mais ceux qui ont un cœur qui ne reconnaît pas, qui ne reconnaît pas la bénédiction du Seigneur. Si je disais ce soir, combien d'entre vous, vous avez des problèmes? Oh là là, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas? Si je dis combien ont des problèmes, moi je serais comme ça. J'en ai. Et vous aussi? Si vous n'en avez pas assez, moi, je vous donnerai quelques-uns. J'ai quelques-uns de supplémentaires. Là, je serai content de partager avec vous. Mais mes amis, la vision d'aujourd'hui, si vous voulez être excellent pour le Seigneur, j'aimerais bien, oh, si j'avais le temps de prêcher sur notre attitude intérieure, notre façon de voir la vie. Est-ce que c'est contrôlé par le Saint-Esprit ou bien est-ce que c'est contrôlé par ce monde? Est-ce que nous avons l'attitude de Christ quand nous voyons le monde ou est-ce que nous avons l'attitude de TF1 quand nous regardons le monde? A2, M6. Quelle est notre manière de voir le monde? Est-ce que c'est John 3:16 ou France 2? Amen. Oui. Est-ce qu'il y a une porte de secours par ici quelque part? Parce qu'il y en a quelques-uns qui... J'ai déjà vu des tomates pourries qui m'ont passé au-dessus de la tête. Et... Mais mes amis, nous... Oui. Et nous regardons autour de nous. Vous savez, quand je parle de vision, et il y a des gens, oui, oui, j'ai une grande vision. Le Seigneur, il va faire ça. Dans le futur, il va faire ça et ça et ça. Mais il fait deux fois rien ici dans le présent. Ils ne font jamais rien. Oui, dans le futur, le Seigneur va. Dans le futur, il va. Vous savez, un des pasteurs qui ont eu le plus de succès aux États-Unis, c'est un homme qui s'appelle Barnett, Tommy Barnett. Moi, j'ai apprécié beaucoup ce qu'il dit. C'est un homme vraiment de foi. Mais il a dit, je surprends les gens quand je dis que je ne suis pas une personne motivée par un but, mais ou bien une vision. Je sais où je vais, mais je ne passe pas beaucoup de temps en réfléchissant sur ce but à la fin. Ma raison d'être conduit ma vie. Ma raison d'être est de gagner les gens qui sont perdus à Jésus-Christ. C'est cela qui me motive chaque jour. La vision et le but sont clairs. Mais je les range et je ne les regarde pas souvent. Vous voyez, là où vous demeurez dans vos pensées chaque jour, ce qui pousse et motive votre vie, cette chose qui est le foyer central de ta vie, peut facilement devenir ce que vous adorez. Et quand nous commençons d'adorer nos rêves, nos visions et nos buts, il est très difficile de les mettre sur l'autel de sacrifice. Je suis une personne qui est très, disons, j'ai des buts assez précis, j'ai des directions pour ma vie, je suis toujours devant le Seigneur, mais je remarque que des fois, je suis beaucoup plus inspiré par ce que je crois que le Seigneur va faire que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et il est beaucoup plus facile de rêver de toutes les âmes que je vais gagner dans 5 ans que de rêver à qui je vais parler pour le Seigneur aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Donne un coup de coude à votre voisin parce qu'il y en a quelques-uns qui dorment déjà. Mais il faut un but dans la vie. Une direction pour savoir où tu vas. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? J'ai parlé avec une mamie une fois dans notre église. J'ai commencé d'être pasteur quand j'avais 22 ans. Alors j'étais un vieux pasteur à ce moment-là, 25, 26 ans, quelque part par là. Et je suis allé faire une visite à une grand-mère de 90 ans. Alors, la sœur Wallace, c'est une guerrière de la prière. Et elle a presque pleuré en me disant, « Oh, pasteur, moi, j'aimerais bien aller parler avec les gens pour le Seigneur, mais j'arrive pas maintenant. » Disons, physiquement, elle n'était pas du tout à l'auteur. J'ai dit, « Mais écoute, sœur, ta vie de prière, ton intercession, on a tellement, tellement besoin de cela. On a quantité de gens qui sont capables d'aller vers les autres. Mais combien de gens savent prier comme toi, tu sais prier? Mes amis, chacun de nous, le jour que tu n'as plus de but, plus de direction dans ta vie, c'est le jour que tu commences à mourir. Tu sais quoi? Moi, je ne veux pas être là sans direction de ma vie. Mon but dans la vie n'est pas de m'amuser. Moi, j'aime bien être amusé de temps en temps. Mais ce n'est pas mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est de plaire au Seigneur et de faire sa volonté. Et ça ne commence pas dans 5 ans. Ça commence maintenant. Je sais où je vais. J'espère que je sais où je vais. Je vais au ciel, ça c'est sûr. Mais je crois que le Seigneur m'a parlé sur certaines choses et je travaille dans cette direction. Et est-ce que vous avez une direction pour ta vie? Est-ce que tu sais? Maman, est-ce que tu as une vision pour tes enfants? Je ne dis pas que tu dois diriger ce qu'ils font, mais je crois que le moindre des choses qu'on peut prier, on peut travailler vers l'une des choses, c'est le salut de nos enfants. Oh, combien de fois nos enfants, ils étaient là et à la table de le dîner, ils voulaient aller vite pour regarder les bandes dessinées ou des dessins animés et tout ça. Je dis non, attends, on va lire quelque chose de la parole. Alors, des fois, tu sais, les jeunes, et quand ils étaient tout petits, c'était les histoires bibliques. C'était même pas exactement. Et puis, quand ils étaient capables de comprendre, on a commencé de lire la parole avec eux. On a lu tout le Nouveau Testament, une grande partie de l'Ancien Testament, et encore en plus, dans le Nouveau Testament, on a prié ensemble. Et c'était pas les longues prières, seulement, souvent, c'était des petites prières. Mais on a pris le temps, pas tous les jours, mais assez souvent, de faire quelque chose avec nos enfants, parce que, j'ai dit au Seigneur, tu sais quoi? Moi, je ne veux pas emmener un enfant dans le monde et que cet enfant aille en enfer. Alors, ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, du tout. Oh là là, parce que je connais des gens qui sont beaucoup mieux que moi dans le Seigneur et les enfants sont éloignés du Seigneur. Mais je sais une chose, j'avais un but, tout comme ces personnes. Moi, je sais que ma grand-mère, elle a prié pour ma maman pour des années. Puis, à la fin de sa vie, maman s'est donnée au Seigneur. Je ne sais même pas si grand-mère était toujours en vie quand elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ma mère. Mais elle avait une vision pour maman. Est-ce que vous avez une vision? Si vos enfants ne sont pas sauvés, êtes-vous là devant le Seigneur chaque jour? Seigneur, sauve mes enfants. Je crois que tu vas le faire. Si je te le redemande, ce n'est pas parce que je manque de la foi, c'est parce que je crois que tu vas le faire. Je te glorifie déjà parce que je sais que tu vas sauver mes enfants. Ou bien, vous savez, mes amis, les priorités sont là. Et vos visions, vos buts, si vous aimez bien construire les choses de vos mains, vous allez passer du temps. Si vous aimez bien le mécanique, là, si vous aimez bien les vieilles voitures, vous allez passer le temps, vous allez dépenser votre argent parce que ça sera votre priorité. Quelle est votre priorité dans la vie? Je crois que pour beaucoup d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, vous êtes ici un samedi soir. Ça, c'est peu habituel. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont bien devant la télé ce soir. Ah là là. Ah. Ah. J'ai une bonne nouvelle. Je crois que le Seigneur vous accorde ce qu'il allait le donner. C'est à vous. Amen. Prenez tout ce que vous voulez. Parce que le Seigneur bénit ce qui donne tout. Parce que la vision, mes amis, Paul avait une vision. Vous savez qu'est-ce que c'était la vision? Jésus-Christ. L'excellence du Seigneur. Comment il est le Seigneur? L'excellence! Paul, il était comme... j'aime bien voir les enfants quand ils commencent à marcher là. Mon fils, il est en train d'adopter un petit Kenyan là, en Afrique. Et il a dit, oh, il commence de marcher maintenant si je tiens les mains. Mais un jour, le petit Josué, il va laisser partir. Laissez tomber les mains de papa. Maman sera là. Viens, petit. Et le petit, il va. Il se casse la figure. Il se lève. Mais puis un jour, il aura un peu plus de confiance. Et tu vois, ses yeux sont fixés sur le but. Maman, les mains. Papa, les mains. Et il va faire. Il arrive, hein? Et comment? S'il avait fait, bon, plus tard, il va aller dans tous les sens, malheureusement pour eux, mais il a ses yeux fixés sur le but. Est-ce que vos yeux sont fixés sur Jésus? Parce que si vos yeux sont fixés sur les gens autour de vous, des fois ça vous encourage, des fois ça vous décourage. Amen? Si vos yeux sont fixés sur ce qui se passe dans ce monde, vous êtes déjà déprimé. Déjà, il faut aller chercher les calmantes. Amen. Mais si vos yeux sont fixés sur Jésus-Christ, le Seigneur, oh mes amis, deuxième chose, si nous allons être excellents pour le Seigneur, je vais dire un mot qu'on n'aime pas de nos temps, de nos jours, il faut sacrifier. le sacrifice. Je ne parle pas des bêtes. Hein. Il faut donner le meilleur parti au Seigneur. Dieu avait donné un don à Abraham. Il s'appelait Isaac, son fils. Et un beau jour, Dieu dit, « Hey, Abraham !» C'est la version Poitiers, je cite. « Abraham, oui, Seigneur. Écoute, va là à Morija, enfin là où était Jérusalem après, donne-moi ton fils en sacrifice. » Alors Abraham, il avait peut-être 120 ans à cette époque-là, presque. Il connaissait la voix de Dieu. Et il devait avoir des gros points d'interrogation parce que Dieu n'avait jamais demandé un sacrifice humain avant ni après. Et dans la loi qui suivait 400 ans plus tard, il s'était strictement défendu le sacrifice humain. Mais ce jour-là, Dieu lui avait dit de faire ça. Alors, je passe parce qu'il y a des images très très fortes de Jésus-Christ là. Mais le jour arrive, il est sur la montagne 3 jours plus tard. Et il va sacrifier son fils. Et puis le Seigneur lui dit, Abraham, arrête. Parce que maintenant, je sais. Et je crois qu'Abraham aussi, il savait. Mais c'est incroyable. Dieu donne un don. Et puis, il le redemande. Il y a un principe ici. Isaac, ce don de Dieu, c'est de bonnes choses que le Seigneur nous donne. Isaac, sur l'autel du sacrifice, est une bénédiction et pour Abraham et pour le monde entier, selon la parole de Dieu. Mais Isaac, sur le trône, c'est un idole. C'est un idole. Et mes amis, même la bonne chose que Dieu nous donne, il faut redonner au Seigneur. Souvent, Isaac, le Seigneur te le redonne. Mais Isaac ressuscité, Isaac te donné au Seigneur comme sacrifice. Est-ce que vous êtes prêts à tout sacrifier? Paul a dit, j'ai tout donné. Dernièrement, j'ai vu un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Et je voyais le sacrifice, les sacrifices qu'en France, en Europe, les pays alliés, là, qu'ils ont fait pour que nous puissions jouir de la liberté. C'était horrible. Et je me dis, Seigneur, aujourd'hui, est-ce que nous aurions le même esprit de sacrifice? Parce que c'était les gens qui connaissaient la grande dépression économique des années 30. C'était les gens qui avaient l'habitude du sacrifice. Nous, oh là là, c'est quand on fait le jeûne et prière et bus, on croit qu'on va mourir, hein, parce que, oh là là, déjà un repas, si je saute un repas, je dis, oh ma tête, Seigneur, oh c'est difficile. Oh. Et est-ce qu'on est prêt de faire des sacrifices qu'il faut pour être excellent? Parce que mes amis, si vous allez être excellent pour le Seigneur Jésus-Christ, vous devez avoir des priorités. Et le Seigneur doit être ta priorité. Et ça va dire probablement que normalement, vous n'allez pas regarder autant la télévision que maintenant. Aïe, aïe, aïe. Au Texas, on dit, ah, il a arrêté sa prédication, il commence de marcher sur les pieds maintenant. Hein. On marche un peu sur les pieds, mais c'est vrai. Peut-être il y a beaucoup d'autres priorités, ce passe-temps qui nous est tellement cher. Est-ce qu'on va passer tant de temps avec ce passe-temps quand il y a un monde qui meurt sans Jésus-Christ? Quand on voit la vision. Ah, je me souviens, quand le Seigneur commençait de me parler de venir en Europe, de quitter mon pays, de travailler pour lui, d'aller là où il n'y avait presque pas d'église évangélique. Au Luxembourg, il n'y avait pas une seule église de plein évangile qui s'exprimait dans une langue que les Luxembourgeois connaissaient. Alors dans tout le pays, et avec un autre, on a commencé deux églises du bec des autres. Mais, ah oh là là, tu dis oui Seigneur. C'est facile de dire oui quand tu te sens la présence du Seigneur. Mais puis après, dans le grand jour, le soleil brille, les oiseaux chantent, tu sens plus la présence du Seigneur comme ça. Et tu dis, qu'est-ce que j'ai dit hier soir dans la réunion? Je crois que j'ai dit oui. Oh là là, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a dit oui Seigneur, tu nous as appelés, on y va. Mais je me souviens du jour, parce que j'ai fait beaucoup de soucis pour mes enfants, ils étaient tout petits à cette époque-là. Et le jour où j'étais dans mon bureau, l'église ne savait même pas que j'allais partir. Et là, devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, écoute, nous allons, mais nous ne savons même pas si, qu'est-ce qu'il y a comme école, parce qu'on ne connaissait pas la situation de Luxembourg, c'est très compliqué, enfin, ils parlent trois langues, et notre ministère, c'était dans la langue française, mais pour les enfants, le français n'est pas une langue vraiment viable, parce qu'ils commencent à l'apprendre à partir de quoi, 8 ou 9 ans. Alors pour les tout petits, ils ne comprennent pas le français. Et nos enfants, à l'école, étaient tout un ensemble de choses. Et là, je me suis mis à genoux. J'ai commencé de prier. J'ai commencé de chercher la face du Seigneur. Et tout d'un coup, et je ne dis pas ça souvent, il y a des gens qui ont des révélations pour les petits déjeuners. Ils ont vraiment des visions pour le déjeuner. Ils ont des grandes choses pour le dîner. Le Seigneur me parle comme ça de temps en temps. Je crois que ceux qui reçoivent trop de cela, c'est pas le Seigneur, c'est de pizza, mais ça c'est autre chose, parce que si je mange de pizza à 11h le soir, des fois j'ai des visions à 3h le matin aussi, mais je suis pas sûr que c'est du Seigneur. Mais le Seigneur, il parle comme ça aussi. Et ce moment là c'était tellement fort, la présence de Dieu. J'ai pleuré devant le Seigneur. Oh, j'étais bien dans son amour, j'ai senti l'excellence du Seigneur. Je savais, pour être excellent devant le Seigneur, il fallait un sacrifice. Et mes enfants étaient, parce que j'aimais ma femme et mes enfants plus que toute autre chose du monde. Et là, c'était comme le Seigneur m'avait donné une vision, pas avec ses yeux, mais dans mon esprit, je voyais Jacob, qui était à la fin de ses jours. Il était sur le lit de mort. Et son fils, Joseph, est venu avec ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Il voulait que son papa les bénisse avant qu'il meure. Et Jacob, il a ramassé toutes ses forces parce qu'il aimait beaucoup ce fils Joseph. Il s'est assis sur le côté de lui là. Il dit, viens ce fils. Et les petits-fils, ils sont venus. Et il a dit quelque chose de très, très, oui, significant à Joseph. Il a dit, Joseph, si tu as d'autres enfants, ils sont à toi. Mais c'est de là, Manassé et Ephraïm. Ils sont à moi, je les ai pris. Ils sont à moi. Et vous voyez plus tard, quand ils sont entrés dans le pays de promesse, ils ne parlent pas de tribu de Joseph qui a hérité, mais ils parlent d'Ephraïm et Manassé. Les petits-fils ont été comptés comme des fils. Ils ont hérité comme des fils. Pourquoi? Parce que le papa, Jacob, il les a adoptés. Il les a pris. C'était comme Simeon, c'était comme Lévi, c'était comme Judas, tous ses autres fils. C'était à Jacob. Et le Seigneur m'a dit, David, tu sais quoi? J'ai pris tes enfants. Ils sont à moi. Et je peux vous dire vraiment que le Seigneur, il prend bien soin de ses enfants. L'éducation... Longue histoire, je ne vais pas raconter, mais ils ont une meilleure éducation qu'ils auraient eu s'ils étaient restés aux États-Unis. Bonne éducation. Tous les trois, ils servent le Seigneur. Tous les trois, ils sont engagés dans un ministère pour le Seigneur. Le Seigneur, il a bien, bien fait avec ses enfants. Mais je me souviens, le jour où j'ai emmené le deuxième, là, Charles, qui est missionnaire en Afrique maintenant, mais je l'ai emmené à l'école biblique. Et j'allais le laisser. On était au Luxembourg. Et pour moi, c'était déchirant. J'ai pleuré des sauts de larmes quand mes enfants sont partis parce que ça faisait mal. Mais je savais qu'on était tous dans la volonté de Dieu. Et j'étais dans une chambre d'hôtel ce soir-là. Charles, il était dans une fonction de l'école, d'accueil là de l'école. Et j'étais devant le Seigneur en train de m'apitoyer. Oh, pourquoi mal? Les autres, ils peuvent être avec leurs enfants et moi. Et tout d'un coup, le Seigneur, il était là de nouveau, de la même manière. Il m'a dit la même chose, David, j'ai pris tes enfants, ils sont à moi. Et je voyais bien qu'il y a ce côté, oh, on était bénis dans nos enfants. Mais de l'autre côté, ils sont à lui. S'il veut les mettre en Afrique, aux États-Unis, en Europe, il les met où il veut. Parce qu'ils sont à lui, ce sont ses enfants. Et oh là, des fois maintenant, on a des petits-enfants. Et, aïe, aïe, aïe. Un jour, ils sont tellement... Ils ont dit, papa, viens jouer avec moi. Papi, viens jouer avec moi. Et, aïe, aïe, c'est un peu difficile quand tu es 4 ou 5 ou 6 000 kilomètres loin et tu veux tellement être là. Et vous savez quoi? Je dis, ma femme, je suis content que nous avons quelque chose de bon d'offrir au Seigneur. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup de talent. Mais la chose qui m'était le plus cher ici-bas, c'est ma famille. Et je l'ai offert au Seigneur. Je suis content d'avoir quelque chose de bon d'offrir au Seigneur. Il me le redonne assez souvent, je les vois. Mais mes amis, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez être excellent pour le Seigneur, ça se peut que le Seigneur va mettre vos enfants juste à côté de vous. Et vous allez prier qu'ils partent aux missions. Parce que des fois aussi, ça... aïe, aïe, aïe. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire, un autre message. Mais, mes amis, votre temps, votre énergie, votre argent, wow, mon argent, oui. Vous serez étonné de voir combien de chrétiens le cœur c'est dans le porte-monnaie. C'est comme le cowboy, il a tiré sur son adversaire, et il y a bien ricoché, ça touchait l'adversaire dans le porte-monnaie, il était mort. Parce qu'il touchait son corps, son cœur, pardon. Est-ce que le Seigneur, il est premier dans la première place dans tes finances? Est-ce que le Seigneur, il est dans la première place dans tes finances? Vous ne serez pas excellent si dans tous les endroits de ta vie, tous les domaines de ta vie, le temps que tu donnes au Seigneur. Comme je dis, vous êtes ici, gloire à Dieu, les gens qui sont consacrés, les gens qui sont prêts. Et mes amis, il y a l'engagement. Et puis, la dernière chose. On est toujours content quand le pasteur dit ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle les mensonges du pasteur. Mais c'est vraiment la dernière chose, le dernier point. Il y a 15 sous-points sur le dernier point, mais non, c'est pas vrai. Mais il faut faire des choses, des piliers, des choses de base. Combien d'entre vous, dans le temps, vous avez joué du football? Laisse-moi voir la main. Vous avez joué du football, quelques-uns? Alors, combien d'entre vous, vous avez joué dans une équipe? Ouais. Alors, vous n'allez pas... Oh, une sœur aussi. Ah, les Françaises, elles sont pas mal maintenant, n'est-ce pas? Elles étaient à la Coupe du Monde, là. Elles sont pas aussi fortes que les Allemandes, mais là, quand même, c'est bien. Mais, vous savez, on fait pas un match. Bon, là, j'ai lu quelque chose, une citation d'un joueur de Paris Saint-Germain cette semaine. Et ils avaient une bonne équipe. On a dit la défense. On a beaucoup travaillé à l'entraînement. C'est pas toujours gai, n'est-ce pas? Pasteur, il était musicien professionnel dans le temps. Alors, il faut passer du temps pour des concerts, les choses comme ça. Parce que si tu fais 5 minutes, et puis tu fais le violon, après ça va... Le trompette, mais si vous ne faites pas l'entraînement, avant, quand le moment est venu, ça ne va pas être excellent. Ça va être quelque chose, mais ça ne va pas être excellent. Je me souviens de quand mon fils, il a commencé avec la trompette à la maison. Oh là là, il ne faut pas la batterie et les trompettes. Il ne faut pas que tes enfants jouent. Parce que là, à moins que vraiment vous avez beaucoup d'aspirine ou quelque chose comme ça. Alors, quand il a commencé avec la trompette, tu aurais cru qu'il vidait son nez ou quelque chose comme ça et il se mouchait. Comme ça. Mais il était vraiment persistant, mon fils. Et après un certain temps, c'était pas mal. Moi, j'aime bien la trompette quand elle est bien jouée. Et il a bien joué. Mais suite à l'entraînement, suite à ces séances d'entraînement. Et mes amis, c'est la même chose pour le Seigneur. Si tu ne lis pas la parole chaque jour, régulièrement, si tu ne pries pas, on disait, quand nous jouions au football américain, souvent tu joues comme tu fais dans l'entraînement. Tu fais bien l'entraînement, quand le match vient, tu es prêt. Si tu travailles bien dans l'entraînement, là à la fin du match, quand les autres sont fatigués, toi tu cours toujours parce que tu as bien fait l'entraînement. Et c'est la même chose, si tu veux être excellent pour le Seigneur, tu ne peux pas le faire de mi-cœur. Tu ne peux pas lire la parole 5 minutes et regarder la télévision 5 heures. Oh, prêche-le, frère, c'est vrai. Amen. Vous ne pouvez pas avoir le temps pour tout faire et ne pas avoir le temps pour la prière. Vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche, ne jamais avoir le temps pour la réunion. Vous ne pouvez pas partir à la mer tous les week-ends si vous êtes... Bon, moins que ton église soit là-bas. Oh là là, je vois qu'il m'aime bien. C'est dangereux. Mais c'est vrai, mes amis. Moi, je veux être excellent. Un monitrice de l'école du dimanche qui est là deux fois sur quatre. Excuse-moi, mais il ne faut pas... Un jour sur 30, et il ne marche pas, elle ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour? Tu ne sais pas si tu es en retard ou non. Ah, là, le réveil qui marche 4 jours par semaine sur 5. C'est pas mal, 80%. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas excellent. C'est assez nul, enfin. Mais mes amis, un chrétien qui est fidèle 80% de temps, qu'est-ce que c'est? Oh là là, prêche le frère. Amen, c'est une bonne prédication ça. Mangez la parole de Dieu, priez, cherchez la face de Dieu. Mes amis, soyons sérieux, soyons remplis de l'Esprit. Que nos actions soient inspirées par ce baptême du Saint-Esprit. Nous pensons tellement souvent que le baptême du Saint-Esprit, c'est la chair de poule. Ouh, t'as senti ça? J'aime bien ce que je ressens. Amen. Je suis content que j'ai une religion, une relation où je ressens quelque chose. Mais si ça ne va pas plus loin que ça, ça ne vaut pas grand-chose. Parce que le Seigneur ne me remplit pas de l'Esprit pour que je puisse... Ouh! Il me remplisse du Saint-Esprit pour que je puisse travailler pour lui, pour que je puisse rendre témoignage pour lui. Amen. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes. Trois fois sur quatre. Amen. Mes amis, nous sommes l'Église de l'Esprit, n'est-ce pas? Nous sommes les gens qui sont engagés à 100%, n'est-ce pas? Jusqu'au bout. Je suis toujours frappé de voir les jeunes qui servent le Seigneur Jésus-Christ à l'école. C'est dur aujourd'hui, c'est difficile. Si vous regardez un peu la télévision et tu vois comment sont les mœurs là, à la télévision, qui vont dans les écoles aussi, et puis un jeune qui marche d'une manière pure et sainte devant le Seigneur, c'est pas facile. On te prend comme quelque chose de bizarre. Comme quelqu'un qui est venu de la lune, quelque chose comme ça. Il faut du courage, mes amis. Moi, je dis chapeau à nos jeunes qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il y a tant d'impurité dans le monde, même en tant qu'êtres humains, quand nous sommes tentés, nous tous, pour faire le mal, eux, ils sont là pour faire le bien et ils tiennent bon pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis impressionné avec ces hommes qui travaillent toute la semaine, qui fait beaucoup d'heures ici à Paris avec la circulation et tout ça. C'est pas facile, mais ils sont quand même là à l'Assemblée. Moi, je suis étonné de voir les gens qui sont vraiment, vraiment engagés dans tous les domaines de la vie. Et puis, ils ont le temps pour travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Je dis chapeau. Merci Seigneur pour cet engagement. Souvent, quand on parle comme ça, oui, on dit c'est pour le pasteur. Non, non, mais c'est pour chacun de nous. Un engagement à 100%. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est une chrétienne. Je termine avec ceci. Il y avait une femme qui s'appelait Thrasher, Lillian Thrasher, un homme qui aimait beaucoup le Seigneur. Et là, elle avait un appel missionnaire pour aller en Afrique, en Égypte. Elle était fiancée à un jeune homme, un évangéliste, qui aimait beaucoup le Seigneur. 3 semaines avant le mariage, elle était dans les réunions, et le Seigneur, il a renouvelé cet appel. Et elle a parlé avec le jeune homme avec lequel elle allait se marier. Elle a dit, écoute, j'ai un appel missionnaire. Et il dit, moi, je n'ai pas, je ne peux pas parce que je n'ai pas cet appel. Alors, elle a rompu les fiançailles. Au lieu de se marier, elle est partie avec sa sœur pour l'Égypte, où elle a passé le reste de sa vie, sauf quelques visites chez elle. Là, elle était avec des femmes missionnaires, elle n'avait presque rien, elle n'allait pas à la foi. Ah, elle a des femmes missionnaires là. Un jour, elle faisait une visite dans une famille d'une femme égyptienne mourante Alors c'était il y a plusieurs années de cela, il n'y avait pas des aides sociales comme ça. Alors cette femme, elle n'avait rien du tout. Alors elle avait une petite enfant là, mal nourrie, qui pleurait tout le temps parce qu'il n'avait pas de quoi manger, un peu de lait là dans une canette qui était presque vert, c'était tellement pourri et tout ça. Mais la femme, la maman, elle était mourante. Et cette femme, Liliane, elle a pris le petit dans ses bras et elle a fait comme des mains avec l'enfant, elle a montré de l'amour. Et puis la femme, le maman, avec ses dernières paroles, elle disait quelque chose à une autre femme égyptienne qui était là. Et puis elle est morte. Puis l'autre femme égyptienne, elle a dit à Liliane, elle t'a donné son enfant. Elle t'a donné son enfant. Alors qu'est-ce que tu fais? Elle aurait pu dire, non, écoute, je ne peux pas, non, je le laisse comme ça. Débrouillez-vous. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a emmené l'enfant à la maison avec les autres femmes missionnaires. Les femmes qui se plaignaient parce que le bébé pleurait tout le temps. Ah, mais qu'est-ce que... Vous ne pouvez pas prendre tous les orphelins en Égypte, là. Jusqu'à, enfin, Corrie prend l'enfant, sa sœur était avec aussi, et elles ont loué une autre petite maison avec les petites ressources qu'ils avaient. Elles vivaient par la foi. Et puis les autres ont entendu, il y avait des autres orphelins, des autres enfants, les autres. Et puis les veuves, parce que là, si le mari mourait, il n'y avait pas d'aide pour les veuves, et ils sont venus jusqu'à ce qu'à un moment donné, je crois qu'il y avait 1200 orphelins dans cet orphelinat. Ils ont connu des révolutions, la guerre, ils ont dû prier comme de tout leur cœur pour que le Seigneur nourrisse ses enfants. Mais cet orphelinat, je crois que c'est presque 80 ans, 85 ans plus tard maintenant. Liliane, elle est morte. Mais son orphelinat, ça continue toujours. Elle ne s'est jamais mariée. Mais elle était maman des gens qui sont devenus des hauts placés en Égypte, qui avaient des boulots bien placés là, qui sont devenus des gens qui aimaient le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a dit, mon engagement au Seigneur, engagement au Seigneur, cet amour que je porte à Jésus, c'est plus important que ma vie. Je crois que ça, c'est la question que le Seigneur pose à chacun de nous ce soir. En ce que nous faisons pour le Seigneur, est-ce que nous avons un fardeau pour notre classe de l'école de dimanche, comme cette moniteur dont je vous ai parlé au début? Est-ce que nous avons un tel amour pour le Seigneur que nous faisions ce qu'ils nous disent? La plupart de nous ne sont jamais missionnaires. On dit, gloire à Dieu, je suis content. Hein? Mais je crois que le même engagement que le Seigneur demande de cette femme-là, il nous demande la même chose. Il faut mettre Isaac sur l'autel. Il faut le redonner au Seigneur pour dire, Seigneur, tout est à toi. Paul a dit, tout ça, ce que j'avais avant, ce sont des ordures, des balayures en comparaison à Jésus-Christ. Et mes amis, quand vous tombez amoureux de Jésus-Christ, quand il renouvelle cet amour, quand tu le vois comme il est, dans toute sa splendeur, dans tout son amour pour toi, oh, tu tombes à genoux devant lui et tu dis, Seigneur, prends ma vie. Toutes ces choses qui me semblaient tellement importantes, pardonne-moi de les avoir mis devant toi. Oh Seigneur, maintenant que je vois cette vision de toi et ton amour pour moi, je mets tout sur l'autel de sacrifice. Prends ma vie, je suis à toi. Prions ensemble, s'il vous plaît. La question dans la prière que je vous pose maintenant, est-ce que vous voulez être excellent pour le Seigneur? C'est toi et le Seigneur qui sait. Moi, je ne peux pas vous juger, je ne vous connais pas comme ça. Et votre vie chrétienne jusque maintenant, est-ce qu'elle est excellente? Est-ce que vous avez fait du Seigneur une priorité? C'est vraiment la chose la plus importante de ta vie? Est-ce que vous êtes en train de jouir de cette relation tellement précieuse avec le Seigneur Jésus-Christ? Ou bien, est-ce que le Seigneur, il fait partie de ta vie, mais seulement une partie de ta vie. Pas la plus importante partie non plus. Il y a d'autres choses qui sont prioritaires, la famille, le boulot, le passe-temps, l'amusement, l'argent, beaucoup d'autres choses, des amis, mon futur, ma vision pour moi. Moi, je vous appelle, Église. Je m'appelle moi-même de regarder de nouveau vers le Seigneur Jésus-Christ, de voir ce qu'il a fait pour nous. Chacun de nous, il nous a sauvés. Il nous a pardonné nos péchés. Nous sommes nés de nouveau, purifiés, lavés dans le sang de l'agneau, en chemin vers le ciel. Il s'est donné tout fait pour nous. Il nous a saisis maintenant. Il faut le ressaisir de tout notre cœur en disant, Jésus, prends ma vie. Je te donne, Seigneur, cette partie que j'ai gardée pour moi-même. Ce petit coin que j'ai dit, non, Seigneur, tu peux tout avoir, mais pas cette personne-là, pas cette situation. Seigneur, ce soir, je te donne tout. Je te donne mon futur, je te donne mes desseins pour ma vie, je te donne cette personne qui m'empêche, Seigneur, de te servir. Maintenant Jésus, ce soir, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, je mets toute autre chose qui m'empêche d'aller à l'avant avec lui, derrière moi pour Jésus. Seigneur, merci. Merci maintenant pour ce que tu es en train de faire dans notre vie. Révèle-toi, Seigneur. On ne fait pas cet engagement, Seigneur, si on ne réalise pas à quel point tu es merveilleux, à quel point tu nous aimes, Seigneur. Mais maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, Père, révèle ton Fils Jésus. Saint-Esprit, révèle Jésus.